Je suis dans le chapitre 12 de l'évangile de Luc, dans lequel Jésus a exhorté ses disciples à lui faire confiance et à le faire connaître autour d'eux. Nous sommes tous plus ou moins familiers avec Dieu le Père et le Fils. Par contre, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit, demeure bien mystérieuse. Maintenant, Jésus va lever un petit peu le voile sur lui et sur son aide précieuse lorsque ses fidèles seront persécutés à cause de leur témoignage. Je lis le texte. « Si quelqu'un dit du mal du Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit-Saint, il n'y aura pas de pardon. Quand on vous traînera dans les synagogues devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devrez dire. » Versets 10 à 12. Ceux qui rejettent le Christ sans trop savoir ni pourquoi ni comment, qui le maudissent même, ont toujours la possibilité de changer d'avis. Ce sera le cas des frères de Jésus et de celui qui est devenu l'apôtre Paul. Mais ceux qui renient le Christ en toute connaissance de cause, comme les pharisiens, sont coupables d'un blasphème qui n'est pas pardonnable, car ils rejettent le seul moyen de salut offert par Dieu. De plus, les religieux attribuaient au diable la puissance de Jésus qui chassait les démons. Or, c'était l'Esprit-Saint qui délivrait les démoniaques. Par cette accusation perverse et sournoise, les pharisiens et autres saintes-nitouches se rendaient coupables de la faute la plus grave qui soit et pour laquelle il n'y avait pas de pardon possible. Par contre, Jésus promet une aide surnaturelle à ceux qui seront condamnés à cause de leur foi et de leur témoignage. Je continue. Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage ?» Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Versets 13 à 15. Jésus utilise la question de cet homme pour donner un enseignement sur les biens matériels. Dans les pays nantis, l'argent est devenu l'idole numéro un devant laquelle la plupart d'entre nous mettons front à terre, sans même nous en apercevoir. Saint François d'Assise a remarqué qu'on lui avait confessé toutes les fautes possibles et imaginables sauf la cupidité, la convoitise des richesses. Je continue le texte. Jésus leur raconta alors cette parabole. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que vais-je faire ? » se demanda-t-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ah ! Se dit-il enfin, « Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, « Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Pauvre fou que tu es, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter ? » Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour lui-même au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu. Versets 16 à 21. Cette parabole ne se trouve que dans l'évangile de Luc. Cet homme, affublé de biens, fait un très mauvais cas de « je, me, moi » ingite aigu. Toutes ses richesses sont sur terre et il a négligé de se mettre en règle avec son Créateur. Dans son village, il était très certainement respecté comme citoyen modèle et bon père de famille. Pourtant, Jésus le qualifie d'insensé parce qu'il ne s'est préoccupé que des richesses matérielles et qu'il a cherché à assurer son avenir sans prendre en compte ni Dieu ni les autres. Le capitalisme sauvage tel que nous le connaissons a plusieurs effets pervers. Le plus grave est qu'il corrompt l'échelle des valeurs de la vie. Ainsi, un de ses vices, maquillé en vertu, est ce désir insatiable de posséder toujours davantage, même en le soustrayant aux autres, tant que cela est fait d'une façon légale. Il n'y a bien sûr rien de mal à économiser pour ces vieux jours, mais savoir se contenter de ce qu'on a est le bien le plus précieux. Je continue. Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant « Qu'allons-nous manger ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie vaut bien plus que la nourriture. Le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cave ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus que... » Versets 22 à 25. Ce ne sont pas les possessions matérielles, ni même les soucis quotidiens qui constituent le but de la vie. Pour ce qui est des nécessités journalières, si Dieu nourrit les corbeaux qui étaient considérés par la loi comme impurs, à combien plus forte raison se préoccupera-t-il du bien-être de ses enfants? Je continue. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lys. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette plante dans les champs, qui est là aujourd'hui et qui demain déjà sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtera-t-il vous-même? Ah, votre foi est encore bien petite. Versets 25 à 28. Non seulement les biens de ce monde ne donnent pas un sens à la vie, mais de m'inquiéter pour ce qui est terrestre est ridicule, car cela ne change rien à ma situation. Jésus utilise à nouveau un élément naturel, les lys, pour montrer la futilité des soucis pour les choses bassement matérielles. Il est vrai que même revêtue du tailleur le plus chic, la plus belle femme, même parfumée avec Chanel numéro 5, est encore loin de la perfection d'une fleur de lys. Je continue le texte. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Versets 29 à 32. Non seulement la vie est bien plus que les biens terrestres, et s'inquiéter ne change rien, mais toutes ces préoccupations font partie des poursuites païennes et ne devraient donc pas concerner les enfants de Dieu. L'apogée de cette section est dans cette affirmation de Jésus. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. La foi à laquelle Jésus appelle ses disciples ne s'inquiète pas d'obtenir de Dieu davantage de biens matériels, mais recherche sa volonté et à ce qu'il soit honoré. Le Christ ne prône pas une attitude d'insouciance, mais de confiance en un Dieu Père qui connaît toutes choses et qui prend soin de son peuple comme un berger de son troupeau. Ce sont les disciples qui recevront le royaume en partage. Je continue. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel, où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Verset 33-34. Du point de vue de Jésus, la possession d'un trésor est un handicap. Son conseil est que je m'en débarrasse, car il va me préoccuper et faire barrière à mon engagement pour Dieu et son royaume. Vu que je n'en ai pas, cela m'est facile à dire. Je continue. Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il entre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Versets 35 à 40. Cette parabole concerne la conduite à tenir en attendant le retour en gloire de Jésus-Christ, retour dont nul ne connaît le moment. Cette histoire décrit un renversement de situation puisque c'est le maître qui est au service de ses serviteurs. Les disciples vigilants sont les invités de Marc au banquet du royaume. Quelle belle image! Tout ce chapitre me fait penser à une des paroles de Blaise Pascal que je cite. Jésus-Christ a dit les choses grandes si simplement qu'il semble qu'il ne les a pas pensées, et si nettement, néanmoins, qu'on voit bien ce qu'il en pensait. Cette clarté, jointe à cette naïveté, est admirable. Fin de citation. Je continue le texte. Pierre lui demanda, « Seigneur, cette comparaison s'applique-t-elle seulement à nous, ou bien concerne-t-elle tout le monde ?» Le Seigneur répondit, quel est le gérant fidèle et sensé à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel pour qu'il donne à chacun, au moment voulu, la ration de blé qui lui revient? Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si ce serviteur se dit « Mon maître n'est pas prêt de venir » et s'il se met à maltraiter les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à une heure qu'il ne connaît pas, alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les esclaves infidèles. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on demandera de vous. Versets 41 à 48. À l'aide d'une autre parabole, Jésus s'adresse d'abord aux chefs religieux supposés diriger la nation pour Dieu, mais qui ont totalement failli à leur tâche. Ce sont eux dont il est dit qu'ils seront sévèrement punis. Mais d'autre part, Jésus parle aussi à ceux qui se disent disciples pour les mettre en garde. Je continue. « Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir, et quelle angoisse est la mienne, tant que je ne l'ai pas reçue. Pensez-vous que je sois venu pour apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père sera contre le fils et le fils contre son père, la mère contre sa fille et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Versets 49 à 53. Jésus est venu allumer le feu du jugement, de la division et de l'opposition. Ce feu se répandra sur la terre au fur et à mesure que le message du royaume sera diffusé par les disciples. Des amitiés seront rompues et les croyants seront bannis de leur famille. Je continue jusqu'à la fin du chapitre. Puis, s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit. Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud, et c'est ce qui arrive. Hypocrite! Vous êtes capable d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez. Pourquoi aussi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas en justice avec ton adversaire, fais tous tes efforts pour t'arranger à l'amiable avec lui pendant que vous êtes encore en chemin. Sinon, il te traînera devant le juge. Celui-ci te remettra entre les mains des forces de l'ordre qui te jetteront en prison. Or, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'à la dernière petite pièce. Versets 54 à 59. Tout d'abord, Jésus reproche à la foule son ignorance volontaire parce que ces gens refusent de reconnaître en lui le Messie. Ensuite, il leur montre que le temps presse. En effet, comme il est normal de vouloir éviter la prison en s'arrangeant avec son adversaire, Jésus exhorte tous ceux qui l'écoutent à se mettre en règle avec Dieu avant que ne vienne le jugement et qu'il ne soit trop tard. Nous voici parvenus au chapitre 13 de Luc, alors que Jésus est en route pour Jérusalem. Je commence à lire. À cette époque, survinrent quelques personnes qui informèrent Jésus que Pilate avait fait tuer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice. Jésus leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens ont subi un sort si cruel parce qu'ils étaient de plus grands pécheurs que tous leurs compatriotes? Non, je vous le dis, mais vous, si vous ne changez pas, vous périrez tous, vous aussi. Rappelez-vous ces 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais vous, pareillement, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Versets 1 à 5. Ce récit touche le grand mystère du mal sur terre. Les Juifs pensaient que des catastrophes comme celle-ci, qu'elles soient volontaires ou naturelles, ne pouvaient s'abattre que sur des gens qui le méritaient. Jésus rejette cette lecture des événements et retourne la table. N'importe qui peut se faire tuer. Ceux qui sont encore vivants n'ont pas été épargnés parce qu'ils étaient moins coupables, mais à cause de la bonté de Dieu qui leur permet de vivre. En réalité, tous méritent le jugement de Dieu. Seule la repentance et la foi en Jésus-Christ permet de l'éviter et procure la vie éternelle. Je continue. Là-dessus, il leur raconta cette parabole. Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut y cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de sa vigne, « « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre sans pouvoir en trouver. Arrache-le. Je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. »« Maître, lui répondit l'homme, laisse-le encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras arracher. » Versets 6 à 9. Le maître, c'est Dieu, et Jésus-Christ est le jardinier. Cette parabole illustre ce que Jésus a déclaré précédemment lorsqu'il a dit « Vous pareillement, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous. » Le jugement tombera éventuellement sur ceux qui rejettent le Christ. Les fruits sont les signes visibles d'un changement intérieur. Jésus s'adresse surtout au peuple d'Israël, dont le figuier est un symbole et qui fut détruit en l'an 70, comme je l'ai déjà dit. Je continue. Un jour de sabbat, Jésus enseignait dans une synagogue. Il s'y trouvait une femme qui, depuis 18 ans, était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et se mit à louer Dieu. Mais le chef de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. » Versets 10 à 14. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.